Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, mais...
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est dans le mettre. Là, on peut le mettre.
Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution, par exemple, on ne sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues paroles, hein ?
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de pauvre. C'est tant que je pas toucher. Mais il y a quand même curieux, non? 100 fois, tu dis, jamais tombé en panne.
Aujourd'hui, mercredi 10 février, c'est la Saint Sadri Fégaillère. Saint Sadri Fégaillère est le saint patron des voleurs des courtiers en assurance, pardon. 54e fortune de France d'après Challenge, le recenseur flagorneur officiel des ultra-riches, et surtout plus grande fortune nationale dans le secteur des assurances, Saint-Sadri n'est pas n'importe qui. Quand Jupiter, du temps où il était ministre de l'économie, nous disait qu'il fallait des jeunes Français qui ont envie de devenir milliardaires, avec Saint-Sadri, le voilà servi. Du haut de son petit BTS en raquette, en assurance, Saint-Sadri Fégaillère, altruiste comme Balkany, écoutant la verve du futur président, se sentit pousser des ailes de sauveur de l'économie française. Ah, il en faudrait plus des Sadri parce qu'il a tout fait pour l'avoir son milliard. Puis rapidement en plus. Hein. Comment il a fait? Bah, comme tout self-made man patron milliardaire qui se respecte, il a appliqué la même recette que les copains. Tout est à vous, rien n'est à lui, et tout ce qu'il a, il vous l'a volé. Tout commence quand, sans un sou en poche, d'après les échos, le jeune petit Sadri emprunte 5 briques pour s'acheter sa petite boutique SFR de téléphonie mobile. Bon, sans un sou en poche peut-être, mais avec de sacrés garants. De là, il sent venir le filon de l'assurance spécialisée dans tous ces nouveaux machins trucs connectés aliénants qu'on catégorise sous l'appellation multimédia, et créer la SFAM, Société Française d'Assurance Multimédia. Et là, bah, c'est pas la même marge que quand tu vends tes patates à Oisem, hein. Surtout quand tu sais bien tricher. Et comment on fait pour bien tricher, Jamy? Il va quand même pas se faire tout seul, ce milliard. D'abord, trouver les clients. Pour ça, un petit partenariat s'impose avec Fnac Darty dans un premier temps, qui est bien sûr le leader sur le marché des nouveaux machins trucs connectés aliénants. Une fois que le client achète son machin truc connecté aliénant, le vendeur lui propose de souscrire à une assurance. Et comme à l'ASFAM ils sont très gentils, on leur file le premier mois gratuit et même 150 euros de remise arrivés à la date anniversaire de souscription dans cette assurance. Mais bon, comme dirait Jean-Michel Slogan, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Bah oui, parce que pendant que Jean-Mimi se méfie, il y a Candide Bonnepoire qui se dit « Mais magnifique, d'ici un an, c'est comme si j'avais quasiment rien payé à l'assureur !» Oui, certes, sauf que Candide Bonnepoire a donné son RIB, a signé les papiers à la va-vite, et là, sans son consentement, va souscrire non pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, mais parfois même jusqu'à cinq assurances, avec toutes les options de cocher d'avance sur le logiciel du vendeur, pour assurer une tablette qu'il possède même pas, une télé vieille d'un demi-siècle, un téléphone tout moche, une enceinte qui marche plus, il en a pour entre 90 et 300 balles par mois, mais, effectivement, le premier mois du service qui assure son tout nouveau PC est lui bien offert. Ça fait cher la gratuité quand même. Alors, forcément, à vouloir toucher son milliard trop vite, on finit par se faire gauler par une presse de gauche, Révolution Permanente, par l'association de consommateurs UFC Que Choisir, et puis par la justice, qui condamne l'ASFAM à 10 millions d'euros d'amende pour ses méthodes douteuses. Sauf que le petit Sadri, lui, a déjà dépassé la barre du milliard, donc bon, 10 millions de plus ou de moins. Et puis entre-temps, Saint Sadri Fégaillère est canonisé entrepreneur de l'année en Auvergne-Rhône-Alpes. Entre voleurs, on sait se récompenser. Malheureusement pour le petit Sadri, le partenariat avec Fnac Darty saute du fait des démêlés juridiques, sauf dans les magasins qui appartiennent à... devinez qui ?
Sadri !
Et du coup, le saint du jour a besoin de nouveaux clients. Il appelle son ami Mullier parce que bon, un milliard c'est pas assez, et là Papy Gérard lui refile au calme les bases de données de ses discounts avec nom, numéro de téléphone et qui a acheté quoi en gros. Ça va en faire des nouveaux machins trucs connectés et aliénants à assurer, chouette! Avec possibilité de cibler les petites vieilles faciles à rouler, les étrangers qui parlent pas français, oh! Saint Sadri Fégaillère ne s'arrête jamais et il aime tellement vous plumer que Johan de la chaîne YouTube Le Canard Réfractaire a recensé pas moins de 12 méthode crapuleuse employée par l'ASFAM pour humblement vous détrousser. Entre les souscriptions sans consentement, le benchmarket en interne qui pousse les vendeurs à tricher pour choper une prime, la technique des trois prélèvements en deux mois, le SAV téléphonique surfacturé, y a pas à chier, un courtier, c'est plein de créativité. Alors si toi aussi tu t'es fait baiser, ou si à l'ASFAM tu as bossé et tu veux la dénoncer, n'hésite pas à témoigner sur www.stopsfam.fr, sur la page Facebook StopSfam ou encore sur le Discord du Canard Réfractaire. Aujourd'hui, mercredi 10 février 2021, le soleil s'est levé, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Il s'est couché, mais quand il vient nous assurer, il sait comment se placer les pieds. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, sur le campuslille.com et sur le DAB+.
Je me suis fait assurer, il y a deux ans passés, c'était par un vieux garçon, mais je vous dirai pas le nom. Il y a une moustache en prêté, puis un beau petit short coupé, mais quand il vient nous assurer, il sait comment se placer les pieds. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange, quand je les vois y arriver, elles vont à ma porte puis vont me cacher. À 7h du matin, on les voit sur le chemin, ils nous regardent en souriant, c'est pour nous arracher d'argent. Quand ils savent qu'on est passé, ils pensent à nous regarder, mais quand ils viennent à la maison, je les reçois à ma façon. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange, quand je les vois y arriver, je bats ma porte puis je vais me cacher. Parle-moi en passé quand je les vois à leur départ. Ils viennent avec l'inspecteur, ils pensent bien de nous faire peur. Quand ils voient que je suis fâché, dans ce temps-là tu es poussé. Leur chapeau est accroché, ils prennent pas le temps de l'emporter. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange. Quand je les vois y arriver, je bats ma porte puis je vais me cacher. <t'-> collecter, ils peuvent toutes nous arracher, mais quand ils savent qu'on a d'argent, faut leur payer 4 semaines d'avant. Ils mettent toujours leur habit neuf pour faire plaisir aux petites veuves, et c'est quand mon mari est pas, ils viennent toujours dans ce temps-là. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange, quand je les vois y arriver, je bats ma porte puis je vais me cacher. Quand on a un nouveau-né, dans son lit, on les voit arriver. Le médecin est pas parti, qui sont rendus au pied de notre lit. Et avec une belle manière, ils essayent de nous faire accroire qu'ils peuvent assurer le bébé avant qu'il soit baptisé. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange. Quand je les vois y arriver, je vais ma porte puis je vais me cacher.
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pochiche de Radio Campus, comme tous les mercredis à cette heure-ci, ou à peu près. Ce soir, des nouvelles des luttes en cours, du son pris dans la manif du 4 février à Lille, par notre camarade Seb, de l'émission On passe au rouge, que vous pouvez retrouver le lundi à 19h sur cette même antenne. Mais juste avant, du son pris à Valenciennes chez les salariés d'Honnête, son pris cette fois par le camarade Cédric, de la CGT de Tourcoing. Et puisqu'il est question de la CGT, tout de suite, des nouvelles des mobilisations des fonctionnaires. C'est l'heure de le mettre.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Nous sommes avec Natacha Paumet, secrétaire générale de la CGT Fonction Publique, qui est à Lille aujourd'hui le 2 février dans les locaux de la Bourse du Travail, invitée par l'Union départementale CGT pour le lancement de la campagne des 10%. Est-ce que, Natacha, tu peux nous dire en quoi consiste cette campagne ?
Cette campagne, elle est issue de plusieurs réflexions pendant la période. À la fois sur le fait que ce qui faisait sens pour les fonctionnaires, c'était surtout ces dernières années des campagnes défensives, notamment pour lutter contre des projets de loi qui visaient à détruire le statut. Or là, pendant la période de la pandémie, la population, les Français et même le gouvernement ont été obligés de reconnaître le rôle essentiel des fonctionnaires. Et du statut qui aujourd'hui fait que nous avons une fonction publique de haut niveau malgré les différentes attaques. Donc il était important pour nous d'avoir une campagne offensive et d'un qui réunisse les trois versants de la fonction publique, puisque c'est ça la garantie d'une fonction publique telle que nous l'avons aujourd'hui, et qui soit compréhensible par tous et surtout qui ait un message qui paraisse atteignable. Et donc vraiment, cette campagne des 10%, elle est compréhensible par tous.
Alors c'est 10% paraît... de quoi ?
Alors, c'est 10% pour la fonction publique. On a choisi, pour ce premier trimestre de lancement de campagne, de cibler sur trois enjeux qui nous paraissent importants, c'est-à-dire les créations de postes, 10% d'augmentation de salaire et 10% de temps de travail en moins. Mais puisque c'est une campagne qui a vocation à durer jusqu'aux élections professionnelles dans la fonction publique, c'est-à-dire décembre 2022, elle se déclinera et elle commence à se décliner sur d'autres champs. On parle aussi de 10% de revalorisation des filières à prédominance féminine pour assurer le rattrapage sur l'inégalité qu'il existe entre les filières féminines et masculines. Mais c'est aussi 10% de temps de travail consacré à la formation professionnelle. On peut imaginer également 10% de revalorisation des pensions. Enfin, ça se décline à l'envi. L'objet, c'est surtout ce 10% qui est un objectif aujourd'hui immédiatement atteignable.
Oui, parce qu'en plus, toutes les fonctions publiques, toutes les situations ne sont pas les mêmes. J'imagine Exactement. Que ça doit créer du débat aussi. On est dans une démarche aussi de communication, finalement, de propagande. Hein.
Exactement. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment qu'un maximum d'agents de la fonction publique se sentent concernés par ces 10%. Quand on parle notamment 10% d'augmentation d'effectifs, on a bien conscience qu'aujourd'hui, les manques d'effectifs se placent notamment à l'hôpital, mais aussi dans les finances publiques, qui ont été largement dépecé depuis ces dernières années. Et on a bien conscience que dans d'autres secteurs, il y a moins besoin de fonctionnaires. C'est ça aussi l'adaptabilité de la fonction publique. C'est savoir quand il y a des missions qui n'existent plus parce qu'il y a eu des progrès techniques pour. Mais dans la santé, on l'a bien vu, il y a un besoin criant de créer des postes. S'il y avait eu suffisamment de fonctionnaires dans les hôpitaux, on n'aurait jamais eu à subir ces presque trois confinements que nous avons vécus. Et ça, en France aujourd'hui, dans la France du 21e siècle, c'est totalement inadmissible. Donc 10% pour la fonction publique immédiatement, c'est faisable, envisageable et c'est immédiatement nécessaire.
Alors tu l'as dit, c'est une campagne offensive.
Oui.
Ça signifie aussi peut-être que c'est une campagne pour les services publics tout simplement et pour un changement de société.
Exactement. La CGT, de toute façon, elle se place dans la volonté de transformer la société. Et donc là, la fonction publique, les militants de la fonction publique prennent leurs responsabilités en disant « Nous, résolument, nous voulons nous engager dans la transformation de la société. » Et pour la fonction publique, ça passe par des moyens considérables qui doivent être mis dans les services publics, dans la fonction publique, au lieu d'être versés dans la finance et dans les entreprises privées aujourd'hui, comme on l'a vu pendant le confinement.
Ça veut dire aussi élargissement peut-être du périmètre des services publics, parce qu'on vit depuis des années et des années avec une privatisation soit directe, soit rampante, avec une précarisation des personnels, la sous-traitance, etc. etc.
C'est aussi pour cela que la Confédération s'est joint à nous pour mener cette campagne, parce que 10% pour les services publics, 10% aussi, notamment pour l'énergie. Hein. On a nos camarades de la Fédération de l'énergie qui se battent aujourd'hui contre le projet Hercule, alors qu'on aurait besoin que l'énergie soit un bien public à destination de tout le monde. Donc c'est aussi 10% pour ça, mais ça peut être aussi 10% pour les transports, 10%, enfin, c'est 10% pour la fonction publique, pour les services publics, pour un mieux-être en société aujourd'hui en France.
Natacha Pomé, donc secrétaire générale de la CGT Fonction Publique, merci.
La seule qui commence par la fin, celle qu'on arrose enfant pour les prévenir d'un sombre destin, un songe cauchemardesque. Dans les foyers nantis, la seule sombre et funeste histoire qui t'ouvre l'appétit, il était une fois. La fin du mois, les petits princes ont étrié les économies du livret A, traque les pièces dans les recoins de leur canapé, parfois dans celui des autres. Quand la fin commence le premier, de la blouse bleue au col blanc, change de costard après l'usine, devient trader. C'est le crack boursier dans la cuisine. On attend que le cours de la vie s'effondre, ce n'est qu'une histoire de date. Sinon, y a qu'un moyen de faire son beurre, c'est d'être marchand de pâtes. Y'a pire, c'est certain, y'a pas de quoi s'exciter. Quand d'autres se mettent en péril à défaut de pouvoir bouffer chez le confort, qu'un jour sur 30, c'est la moitié de ma vie, pas de quoi se plaindre, non. Le reste du temps, le jeûne est gratuit, il était une fois. La fin du mois, faut avoir la culture du peu. Surtout quand on peut pas, il était une fois. La fin du mois, faut avoir la culture du peu. Surtout quand on peut pas, il était une fois. La fin du mois, faut avoir la culture du peu. Surtout quand on peut pas, il était une fois. La fin du mois, s'il n'était qu'une fois. Satiété, satiété, tu mourras pas. Ainsi siffle le concerto pour 60 millions d'estomacs. Un requiem à la mémoire de deux premières semaines. Ça va m'entorchestrer par 5 millions de chefs à la panse pleine. Le cliché est facile, ses conséquences un peu moins. Si le phénomène existe, il semble être le fruit du destin. Aucun tract, aucune lutte, aucune manif, aucun parti. À croire que même les convictions se payent à crédit. Se perdent étouffées sous les gargouilles provoquées par la fin. Car plus qu'elle ne la justifie, la fin nécessite les moyens. Fin de mois, épilogue et début du combat. Ça m'afflige, reste couliné de fatalité. Que celle que l'on fige, alors je veille sous une ampoule basse consommation. Je sous-alimente pour lutter contre la pollution. Je défends la cause, consomme propre, vu que je consomme plus rien ou bien seulement des légumes. Mais dans le potager de mon voisin, il était une fois. La fin du mois, faut avoir la culture du peu. Surtout quand on peut pas, il était une fois. La fin du mois, faut avoir la culture du peu. Surtout quand on peut pas, il était une fois. La fin du mois, faut avoir la culture du peu. Surtout quand on peut pas, il était une fois. La fin du mois, s'il n'était qu'une fois. Faut avoir la culture du peu, surtout quand on peut pas faire autrement, est un luxe. Quand on ne le subit pas, je donnerais bien mon corps à la science. Les familles sont rémunérées, faut juste une solution pour pas mourir avant d'être payé si steak touche. Et sonne un peu comme une vérité, c'est que ma fin de mois n'est pas vaine, que je l'aurais recyclé si steak touche. Faudrait pas qu'il me desserve, soyez sympa en fin de mois, envoyez-moi une boîte de conserve. Il était une fois, la fin du mois, faut avoir la culture du peu. Surtout quand on peut pas, il était une fois. La fin du mois, faut avoir la culture du peu. Surtout quand on peut pas, il était une fois. La fin du mois, faut avoir la culture du peu. Surtout quand on peut pas, il était une fois. La fin du mois, faut avoir la culture du peu. Il était une fois. La fin du mois, faut avoir la culture du peu. Surtout quand on peut pas, il était une fois. La fin du mois, faut avoir la culture du peuple. Surtout quand on peut pas, il était une fois. La fin du mois, faut avoir la culture du peuple. Surtout quand on peut pas, il était une fois. La fin du mois, s'il n'était qu'une fois.
Radio Campus.
C'est quand même pas mal la politique, hein.
Ah, c'est pas inintéressant, hein.
Ah oui.
106,6.
Honnête, je veux pas faire d'honnête un symbole. J'ai envie de dire, ce n'est que la partie visible de la situation, de la précarité, de l'emploi en CDD et le temps partiel subi. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Simplement, dans le Valenciennois noir, c'est des milliers d'emplois qui sont dans cette situation. C'est des milliers de travailleurs qui vivent avec 500, 600 euros par mois. C'est ça la réalité. On ne peut plus l'accepter. On ne peut plus l'accepter que des salariés se retrouvent 3 jours après leur paye avec un frigo vide. Les camarades honnêtes ont mené une lutte courageuse au mois de décembre. Leur société honnête, alors une société reconnue pour un passage très souvent en prud'homme pour faire aussi de la répression syndicale, s'attaque à nos camarades Johan qui était militant syndical et qui l'est toujours bien évidemment et en procédure de licenciement pour des faits inacceptables et non reconnus. Moi, je vous appelle à un rassemblement demain à 11h à Cédra Park. J'appelle tous les camarades ici présents à aller le soutenir au niveau de l'union locale et je sais aussi que le SCM y sera. Nous allons le soutenir et dénoncer les pratiques de la société honnête. Nous avons le soutien de la Fédération des ports et d'offres puisque font partie de cette fédération au niveau national. Mais dans le même temps, je voudrais quand même rappeler la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier de Valenciennes, le donneur d'ordre, avec son directeur, M. Bourret, avec son directeur logistique, M. De Courcelles, qui a eu les honneurs médiatiques lors du dernier cash investigation où il jouait les VRP de la société honnête. C'est inacceptable. Johan l'avait interpellé suite au scandale, la société honnête envoyer ses salariés laver les lavettes souillées et contaminées dans une laverie. L'union locale a interpellé le directeur de l'hôpital. Aucune réponse. Tout ce qu'il sait faire, c'est acheter du public reportage dans les journaux en couleur et puis voilà, faire sa propre communication. Mais la réalité aussi dans cet hôpital, c'est que le personnel soignant qui souffre, près de 50% du personnel soignant de l'hôpital de Valenciennes est contractuel. Il est peut-être le premier hôpital de France et il se targue de faire de l'excédent, mais à quel prix ? Il est aussi le premier hôpital de France sur le pourcentage de contractuels. Il est aussi le premier hôpital de France sur le turn-out au niveau du personnel qui cherche à fuir l'hôpital de Valenciennes par rapport à ses conditions de travail. Il n'y a pas que de la communication au niveau de l'hôpital de Valenciennes de M. Bourret, avec la complicité, bien évidemment, de la mairie de Valenciennes qui détient la présidence du conseil de surveillance. Tout se passe là aussi. Nous avons demandé à intégrer ce conseil de surveillance au niveau de la CGT. On pose candidature au niveau de l'ARS et l'ARS accepte ou pas. Je sais comme ça que ça se passe. Ils ne nous ont pas retenus. Parce que nous, on a des choses à dire là-dessus. On a des choses à dire et puis on demande que l'hôpital de Valenciennes prenne ses responsabilités par rapport à l'externalisation des missions et qu'il donne aussi les moyens au personnel soignant. Le personnel soignant soutient la lutte des honnêtes. C'est la direction de l'hôpital qui ne prend pas ses responsabilités par rapport à la situation qui se passe. Ça ne peut pas être acceptable. Merci les camarades. Donc je vous appelle demain, vendredi à 11h, devant Cédra Park. Et nous ne lâcherons pas le morceau, on ne va pas se laisser intimider par une entreprise de ferreux avec le soutien de l'hôpital de Valenciennes. Merci.
Demócratas, ludópatas, tecnócratas, cleptómanos, hipócritas, ridículos, mitómanos, demócratas, moléculas melódicas, exóticas, cosméticas, simpática, estética, magnánimo.
On connaît que ça, self-control et la prudence, on connaît par n'a pas le calme et la rigueur du petit bourgeois d'après la conseillère pédagogique. On a des petits problèmes psychologiques, aucune logique à l'abordage technique de Hadbi, aucune méthode, aucun respect de la hiérarchie. Bordélique, une idée, une revendication, une solution, une proposition, une réponse, un droit d'honneur à ce monde trop étriqué pour nos âmes vagabondes. Bordélique par esprit de contradiction, par instinct, par conviction. Ils veulent du calme, du silence et de l'ordre. Ils auront du boucan, du bordel et du désordre. Comme à la fin d'une manif, une hygiène contre la crime.
Comme on gagne, c'est pas et pas la ISO.
On n'y fait rien, on est comme ça depuis le berceau. On est bordélico. Comme à la fin d'une manif, une hygiène contre la crime.
Barricada, c'est des pieds, c'est vito.
On n'y fait rien, on est comme ça depuis le berceau. On est bordélico.
Soy desordenado como el viento del puerto. Soy desordenado de afuera y de adentro. Soy lo que soy, así vivo contento en un mundo incorrecto. Camino desierto, hombre para trabajar, mujer para criar, nacer para morir, vivir para sufrir, matar para cocinar, leer y no pensar. Te quieren dominar y yo quiero escapar.
La fin du manif, une hygiène contre la crime.
Como los galles de Valparaíso.
On n'y fait rien, on est comme ça depuis le berceau. On est bordélico.
La
fin du manif, une hygiène contre la crime.
Mes poches et mes paperasses, trop de factures impayées que les huissiers niquent leur rage. J'ai des petites galères d'organisation débordées. Si je reçois plus de deux informations dans ma tête, c'est l'ONU. On est 200 à s'exprimer, 200 à décider, à trancher, à voter. Faut choisir le menu et la cuisson du steak, le téléphone, la tablette et le forfait internet. Le logo du nouveau disque, la couleur de la pochette, des baskets, des chaussettes, des survêtes et des casquettes.
Parce que toi, tu sais pas comment c'est compliqué de choisir une casquette.
Attends, attends. Mais le pire, c'est qu'il faut choisir nos hommes politiques. Et de ce côté-là, je suis un peu moins bordélique. J'ai capté qu'ils défendaient que leurs intérêts, que pour les combattre, il fallait s'organiser.
Comme à la fin d'une manif, une hygiène contre la crime.
Comme on gagne, c'est bye bye la ISO.
On n'y fait rien, on est comme ça depuis le berceau. On est bordélique.
Comme à la fin d'une manif, une hygiène contre la crime.
Barricada, c'est des piedras, c'est vito.
Camarades, écoutez la radio attentivement, les lundis à 19h. On passe au rouge sur Radio Campus en 6,6 afin d'éviter tout désagrément pour ta santé et celle de tes enfants.
Vous êtes toujours sur Radio Campus en 6,6 dans la manif lilloise du 4 février 2021. On voulait absolument rencontrer Jean-Paul Delescot, qui est le secrétaire de l'Union départementale de la Confédération générale du travail 59. Bonjour Jean-Paul Delescot, on voulait surtout vous voir parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de luttes sectorielles en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Oui, salut déjà à tous. Oui, il y a des luttes sectorielles. On a eu le 21, le 26, le 28. On a les camarades de l'énergie sur le 28 contre le projet Hercule. On a les camarades le 21 de la santé, le 26 dans l'éducation nationale. Et aujourd'hui, c'est un résumé de toutes les luttes sectorielles. avec un appel confédéral. Et on voit que bah, le monde du travail répond présent quand c'est un appel généralisé. Et on a besoin d'amplifier un calendrier de lutte confédéralisé sur la question en priorité contre les licenciements, pour l'emploi, les salaires, les conditions de travail.
Ah, c'est vrai qu'on est plus nombreux aujourd'hui que la semaine dernière, qui était une manif à Lille, plus sur l'éducation nationale.
Bien sûr, mais il y avait quand même énormément de camarades présents la semaine dernière. Je veux quand même aussi signaler qu'il y avait énormément de grévistes dans les collèges et les lycées. Donc ça montre que chacun fait son travail dans son coin et que ça marche, parce que les salariés en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de ce gouvernement, ras-le-bol des décisions à l'emporte-pièce qui sont prises sous l'effet Covid. Alors qu'on voit très bien que c'est des stratégies. C'est des stratégies du gouvernement et des stratégies aujourd'hui du patronat d'utiliser le Covid pour licencier massivement en France.
Alors on a parlé de l'éducation nationale avec les conditions de travail qui se sont totalement dégradées évidemment dans ce secteur. On a interviewé tout à l'heure aussi vos camarades du secteur de l'énergie avec le projet Hercule dont vous nous avez parlé. Quels sont les autres secteurs en lutte là ?
Depuis avant le premier confinement, et le premier confinement l'a mis en lumière, c'est les camarades de la santé qui sont en très grosse difficulté parce qu'ils sont en étant en première ligne.
Avec d'abord un problème d'effectif. Hein.
Bien sûr, non mais ça a un problème général. C'est problème d'effectif, de moyens, de lits. Aujourd'hui, le gouvernement décide de fermer des lits. Et aujourd'hui, si on est en pseudo-confinement avec des couvre-feux, ça démontre bien qu'ils ont cassé l'outil de santé publique et qu'ils n'ont plus moyen de répondre au niveau hospitalisation, au niveau hospitalier sur le Covid.
Et les autres secteurs alors ?
Il y a alors par exemple le secteur du commerce qui ont été en première ligne aussi pendant tous les confinements,
et oui.
Souvent même invisibles, mais qui subissent aujourd'hui de front, comme Nocibé, comme les Camailleux, des restructurations.
Le prêt-à-porter en prend plein la gueule en ce moment.
Oui, tout à fait. Mais c'est l'ensemble de la filière commerce qui en prend plein la gueule. Les flunchs. Alors qu'au milieu, une des plus grandes fortunes de France, qui a utilisé le chômage partiel à outrance, et donc qui s'est fait payer par l'État le chômage partiel, et qui aujourd'hui ferme les flunchs. Nocibé, on pourra dire le même. Et donc on a besoin de résister, on a besoin de relever notre tête, et d'y aller, d'aller au combat. On ne peut pas supporter aujourd'hui qu'il y ait un seul licenciement en France.
Petite parenthèse là dans cette interview. Vous vous souvenez de l'histoire de cette boîte qui s'appelait Aléa, je crois, et qui avait été vendue par mise en faillite, en fait, par un des de la famille Mulier,
et qui a été racheté. Bah oui, parce que
on a épuré les dettes par nous, par l'État, quoi.
Parce que quand on a un gouvernement à la botte du patronat, le gouvernement fait que le patronat a tous les moyens aujourd'hui pour se mettre en liquidation, se racheter à l'euro symbolique. Toutes les lois sont faites aujourd'hui pour eux.
Ça, c'était quand même très gros. Il n'y a pas eu d'autres cas, je crois, depuis. Hein.
Dans le Nord, en tout cas.
Ouais, pas dans le Nord. Ok. D'autres secteurs en lutte, alors, peut-être, en ce moment. Il y a les pompiers, toujours, qui continuent.
Oui, toujours, bien évidemment, sur les effectifs. Là, on vient aussi de lancer la campagne 10% dans la fonction publique. Et donc, on a lancé ça au niveau départemental mardi. Et on va lancer campagne en interpellant aussi les politiques sur la question du service public et de la fonction publique. Parce que les politiques ont un rôle à jouer aussi là-dedans. Il ne faut pas les laisser tranquilles. Et donc on va les interpeller sur la question de l'avenir de la fonction publique en France.
Je voudrais quand même qu'on parle d'organisation. Il y a énormément de mécontents en France. C'est une question que je pose à tous les gens que je rencontre dans cette manif. Tous ces mécontents, une grande partie d'entre eux, rechignent à s'engager dans une organisation. Et pourtant, semble-t-il, c'est ça qui permet d'avoir une plus grande efficacité dans la lutte. Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens qui sont méfiants par rapport aux orgas et à la vôtre en particulier?
De nous rejoindre et de la faire vivre, puisque c'est de l'intérieur qu'on fera vivre l'organisation et non pas à l'extérieur. Donc j'appelle le monde du travail, les salariés à se syndiquer, à investir le syndicat et venir décider ensemble de l'avenir du monde du travail avec la CGT.
Ma dernière question, c'est est-ce que le prochain rendez-vous, c'est le 1er mai?
Hors de question.
Non.
Non, mais non, le prochain rendez-vous peut pas être le 1er mai après le 4 février. ça voudrait dire qu'on est complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, il y a des milliers de travailleurs qui sont tous les jours licenciés. La CGT doit être à l'offensive et elle doit appeler un calendrier de lutte, en tout cas pour l'UD du Nord. On pèsera de tout notre poids pour avoir un vrai calendrier de lutte confédéralisé.
Ça veut dire que dès ce soir, avec les autres organisations syndicales, vous allez déjà envisager la suite ?
Oui, et déjà la suite au sein de la CGT aussi. Ça veut dire dès mardi prochain en commission exécutive de l'UD, de poser le bilan de la journée d'aujourd'hui et des journées à suivre.
Merci Jean-Paul Delesco. Bonne manif.
On ne reculera devant aucune mine, aucun labeur. Les barrières sont faites pour ceux qui en ont peur. Fifada, réfacta soumission, appel au soulèvement et à la rébellion. Tant qu'il y aura de la flicaille assassine, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qu'on opprime. Avis à la populace, on recrute très très large. On empoche en masse pour une mission piratage. Fait tourner la faux, faut du monde dans l'équipage. Un seul mot d'ordre, tout le monde à l'abordage.
Campus, pas de soucis.
Bonjour, alors vous êtes estampillé PCF là dans cette mobilisation pour l'énergie.
Oui.
Pourquoi vous êtes venu en soutien aujourd'hui ?
Bon, parce que nous on considère que.
Salut.
On considère que bon l'énergie, alors déjà par le passé historique, le fait que la nationalisation du gaz et l'électricité a été faite dans les moments les plus difficiles de notre vie française, le Conseil national de la résistance. Bon voilà, donc en 1945-1946, la loi de nationalisation par Marcel Paul. Moi je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin non pas de défendre, c'est pas un statu quo, mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le modèle social français de l'énergie a fait ses preuves. Voilà. Et aujourd'hui, on nous démontre que soi-disant le libéralisme pourrait être la solution. Nous voilà, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'en mettant en concurrence des entreprises, on obtient les meilleurs prix pour les clients, là, c'est ça la règle. Ça marche là pour l'énergie ?
Bah non, puisque aujourd'hui la concurrence, elle est premièrement la concurrence libre et non faussée selon les directives européennes. Non. Attends. Non, la concurrence libre et non faussée, je pense pas que. Aujourd'hui, ça soit la solution. On l'a vu, hein. Les gens... aujourd'hui, il y a 13 millions de foyers... Enfin, il y a 13 millions de Français qui sont en précarité énergétique. Donc la solution, elle est où ? C'est pas celle qui nous ont avancé depuis quelques années.
Ça a augmenté sur ces dernières années,
ah bah,
la précarité énergétique.
Ah bah oui, 13 millions, il n'y a plus de bureau d'accueil pour pouvoir discuter avec les usagers qui sont devenus des clients. On a fermé, EDF et Gaz de France ont fermé des bureaux d'accueil. Pour pouvoir discuter de leurs solutions, pour essayer de trouver une solution. Hier, il y avait une proximité. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Voilà. Donc, on combat toute cette politique, parce que c'est le libéralisme. C'est une politique libérale qui est mise en place aujourd'hui. Et on voit où elle nous conduit à des difficultés supplémentaires. Alors, je ne te dis pas, quand je parle de 13 millions de précarité énergétique, c'était avant la crise. Sauf qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, avec le Covid, voilà, là, ça a explosé. On n'a pas mathématiquement les chiffres exacts, mais non, c'est. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres solutions aujourd'hui. Il nous faut se réapproprier, la population se réapproprier la mise en commun de ses besoins énergétiques. Voilà.
Alors pour obtenir gain de cause, là, pour gagner, il faut quoi? Il faut négocier?
Alors bon, et je veux dire, la négociation, attends, depuis combien de temps la négociation alors voilà, je parle pour un. Aujourd'hui, alors négocier, oui, d'accord, mais aujourd'hui, on n'arrête pas de négocier, d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut de la radicalité. Il nous faut peser plus fort sur le mouvement social pour pouvoir se faire entendre. Je pense. Aujourd'hui, on nous parle de négociations sociales, voilà. Pour moi, aujourd'hui, dialogue social. Et aujourd'hui, je pense que on a trouvé ses limites à ce dialogue social. Voilà. Aujourd'hui, si, d'autant que le constat est là, le capitalisme en a tiré, tous les fruits d'avoir pressurisé le salariat. Aujourd'hui, plus que jamais, moi, je pense que, on a besoin à un moment donné de repenser notre façon de notre syndicalisme. Et aujourd'hui, pourquoi pas, une radicalisation. Pas casser, c'est pas casser les choses, mais à un moment donné, de peser beaucoup plus sur les choses. Voilà.
Ah bah, ce qui nous met en colère, c'est que nous, on défend un véritable service public, à 100% public, renationalisation des entreprises industrie électrique et gazière, donc à savoir retour à EDF-GDF, avec un vrai service public auprès de la population. Donc, à savoir que le projet Hercule, plus vous allez habiter loin d'un lieu de production, plus vous allez payer cher votre prix de l'énergie dans le domaine ELEC. Nous, c'est ce qu'on veut absolument pas. Et le Conseil national de la résistance, il a quand même créé ce qu'on appelle la péréquation tarifaire. Où vous habitiez, on vous amène l'énergie et c'est le même tarif pour tout le monde. Demain, avec la libéralisation, comme il y a pu y avoir avec les fournisseurs, les différents fournisseurs d'énergie, on vous vend du rêve. Au final, vous êtes chez Engie, vous êtes chez EDF, vous êtes chez Total Energy, etc. Chacun a leur prestation. Nous, c'est ce qu'on veut absolument pas. On veut un seul fournisseur et unique, et pour que tout le monde, ça soit le même prix de l'énergie. Aujourd'hui, on a 13 millions de foyers en précarité, en situation de précarité énergétique. C'est inacceptable en 2021. Donc nous, on veut que les gens ils puissent payer leurs factures. La moyenne pour un foyer d'une composition, d'une composition de 4 personnes, c'est à peu près 1200 euros par an de facture énergétique. C'est anormal. C'est quasiment l'équivalent d'un salaire par an pour se payer le chauffage, l'eau chaude, ce que vous voulez. Donc nous, on l'accepte pas. Et au-delà de ça, nous, il y a nos conditions de travail qui se dégradent avec les mises en place des différents projets qui sont en train de véhiculer dans notre entreprise. Nous, on est de moins en moins nombreux pour un secteur d'intervention de plus en plus vaste et avec une vétusté des réseaux qui ne permettent pas d'intervenir en toute sécurité pour nous, déjà intervenants, et deuxièmement pour les tiers. On a eu malheureusement un collègue qui est décédé il y a un an et demi sur le réseau, mais par manque de maintenance préventive sur nos réseaux. On intervient encore sur des réseaux d'après-guerre. On est en 2021, donc nous on n'estime pas ça normal. Et voilà, c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, c'est pour dénoncer ce projet néfaste qui va encore plus accentuer toute cette pollution qu'on peut connaître au niveau de l'énergie et notamment au niveau des usagers. Voilà.
Mauvais pour les usagers, mauvais pour les salariés.
Surtout mauvais pour les usagers. Nous, les salariés, on est secondaires. C'est pas tout de suite que ça va arriver, ça arrivera certainement un jour, mais c'est essentiellement pour les usagers. Il faut savoir que les factures aujourd'hui sont composées principalement de taxes, et notamment ce qu'on appelle le TURP, c'est le tarif d'acheminement de l'énergie. C'est l'équivalent de 30% de la facture des usagers. Donc, il faut... 30% de taxes dans une facture, ça demande de l'investissement dans les réseaux. Le projet Hercule, aujourd'hui, ils veulent ouvrir notre capital Enedis à hauteur de 35%. C'est nous qui sommes la poule aux œufs d'or du groupe EDF. C'est nous qui ramenons de l'argent grâce à ce TURP, ce tarif d'acheminement. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça ne remonte pas à des actionnaires, à des gens qui sont là pour spéculer sur de l'argent. On veut que ça remonte sur de l'investissement, sur de l'emploi, de la création d'emplois, sur des embauches et surtout faire baisser les factures des usagers. Nous, on n'est pas là pour dire aux gens « il faut payer, il faut payer, il faut payer ». Non, on est là pour répondre à une mission de service public. On est là pour les dépanner. Demain, nos employeurs, eux, ils seront peut-être libres de dire bah, « les dépannages, ils seront peut-être payants ». Pour n'importe quelle intervention. Et nous, ça, on n'en veut pas. On a une mission de service public au même titre que les forces de l'ordre, au même titre que le SAMU, la santé, etc. On est là pour apporter un service aux usagers. Voilà. Et ça, ils le payent tous les mois, mensuellement. Ils le payent annuellement dans leur facture et on leur doit ce service. Et c'est pour ça qu'on se bat.
Ça y est, je suis avec Pierrette et Virginie. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Vous bossez pas dans l'énergie, vous?
Non, on vient les soutenir.
Les gaziers, les accompagner jusqu'à la porte de Paris.
Oh là là, t'as une double épaisseur de masque là. Hein.
Ouais, t'as une vieille, moi.
Il y a un variant qui est là. Hein.
Eh ben oui.
Ouais, Covid et variant.
Vous êtes bien protégés là.
Ouais.
Et alors, pourquoi c'est important de venir en solidarité des électriciens gaziers aujourd'hui?
Bah c'est normal, hein. C'est un secteur qui souffre aussi. Hein. Ils sont dans la même mouise que tout le monde. Hein. Ouais, un secteur qui souffre pas, dis-moi aujourd'hui. Hop. Il n'y a rien qui va.
La banque ?
Ouais, la banque, ouais. Avec la banque qui va bien.
Rigole, il nous arnaque la banque.
Si, apparemment, la bourse fonctionne bien. Hein. Hein.
Et vous, votre facture d'énergie, là, ça va ? Ça se passe bien en ce moment ?
Bah, j'ai peur de la douloureuse.
Elle monte.
On a peur de la douloureuse qui va arriver, la régule. Hein. Ouais. L'année passée, elle était déjà à 187, la régule. Alors que je donnais 100 euros tous les mois, toute l'année.
La régulation, c'est ce qu'il faut payer en plus.
Un bout d'un an.
Pour s'ajuster quoi, voilà. À la fin de l'année. Ouais.
Bon, en fait, moi, j'ai tout détaillé la facture. J'avais que 752 euros de gaz, électricité. Tout le reste, c'est que taxes, TVA et augmentation.
C'est dingue, hein. Pour revenir à l'ancienne, EDF.
Pour revenir à l'ancienne, monsieur.
À EDF.
Ouais, pourquoi c'était mieux?
Parce que maintenant, il faut le nouveau système. Et il faut, comme la facture, il prélève à la source. Et c'est à la maison mère maintenant. Et la maison mère, c'est une grosse arnaque. La facture, elle est encore plus salée. Donc c'est ça, il faut revenir à EDF.
Il faut qu'il y ait un opérateur unique pour vous, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul.
Alors moi, je suis toujours resté à EDF, GRDF. J'ai jamais changé d'opérateur. Et là, j'ai refusé le compteur Orange. J'ai surveillé l'autre qui est venu changer les compteurs. Je suis la seule dans l'immeuble qui a refusé qu'il me pose le compteur Orange de gaz.
Le Linky? Ah
non, le Linky, j'ai refusé aussi.
Le compteur communicant.
Mais le compteur communicant du gaz, il n'a pas posé. J'ai resté comme ça. Et il ne posera pas.
Devenu fou, le mec. Devenu fou.
Oh, mais c'est un salarié, lui aussi.
Ah
c'est
ouais,
pas
non,
un patron.
Non, mais j'ai
on
dit...
On est des diplomates. Hein.
Il m'a dit, tu vas avoir des problèmes et tout. J'ai Linky, depuis 2 ans, c'est moi qui les a menacés. J'ai dit, si vous menacez encore une fois, je vais à la Madeleine, j'avais l'adresse. Puis je fais tout sauter facilement.
C'est pour une facilité de couper les gens qui sont en déficit.
Ah oui, hein.
Ils coupent à distance. Tu payes pas, ils coupent à distance.
1945. Victoire sur l'occupant nazi. La France se reconstruit. Le nouveau gouvernement adopte ses premières mesures. Il reprend le programme du Conseil national de la résistance. Les entreprises ayant collaboré deviennent propriété de l'État. Les travailleurs accéderont à un système de retraite et de sécurité sociale. Les grands moyens de production de l'énergie reviennent à la nation. Électricité et gaz deviennent services publics.
Le bien commun,
la belle affaire,
ils s'en tamponnent,
les actionnaires,
et le nouveau sport des requins,
vendre ce qui nous appartient.
La seule chose qu'ils ont oubliée,
on ne la fait pas au gazier. Jus et gaz à tous les étages, dans les grandes villes ou les villages, pour tous c'est le tarif unique, ça veut dire ça, service public. L'égalité entre usagers, le confort, la sécurité, c'est le cadet de leurs soucis, à ceux qui dirigent le pays.
Le bien commun,
la belle affaire,
ils s'en tamponnent,
les actionnaires,
et le nouveau sport des requins,
vendre ce qui nous appartient.
La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier.
Le prix du gaz a augmenté et bientôt il va exploser. C'est pour ça qu'ils veulent la fusion, pour faire grimper les actions.
Pendant ce temps, moins d'entretien sur les tuyaux, sur les conduites. Accident et panne, ça revient.
Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de fuite.
Le bien commun,
la belle affaire.
Ils s'en tamponnent,
les actionnaires.
Et le nouveau sport des requins,
vendre ce qui nous appartient.
La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier.
La liberté change de nom, on dit libéralisation. Ils licencient, délocalisent, en nous disant que c'est la crise. À force de nous dégoûter, de tout casser, privatiser, c'est sûr un jour, ça va péter. Auront prévenu les gaziers.
Le bien commun,
la belle affaire.
Ils s'en tamponnent,
les actionnaires.
Et le nouveau sport des requins,
vendre ce qui nous appartient.
La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier.
Gazier, usage et même combat, pour nos enfants et pour nos droits. La lutte n'est jamais finie, les requins ont gros appétit. Si on veut leur faire boire la tasse, pratiquons la lutte de classe. Puisqu'ils l'ont déjà commencé, y'a pas le choix, faut riposter.
Le bien commun,
la belle affaire,
ils s'en tamponnent,
les actionnaires.
Et le nouveau sport des requins,
vendre ce qui nous appartient.
La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier.
Le bien commun,
la belle affaire,
ils s'en tamponnent,
les actionnaires.
Et le nouveau sport des requins,
vendre ce qui nous appartient.
La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier.
La seule chose qu'ils ont oubliée,
on est tous avec les gaziers.
On est tous avec les gaziers.
Clairement, il va falloir réformer.
On en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs.
C'est pas assez violent, tout simplement. Alors, c'est la société française.
Le droit de grève prévaut, c'est bien normal. La liberté de travailler, qu'en est-il?
Est-ce que vous pensez parfois à cette France qui a envie de travailler?
Je trouve qu'on a le droit de critiquer la médiocrité des Gilets jaunes sans se voir taxé comme ça de mépris classe.
Le monde est en train de changer. Alors, serez-vous capable de vous adapter?
Qui souffre le plus de la grève et des blocages? Le CAC 40 s'en moque. La bourse, elle monte.
Quand on regarde la réforme des retraites, c'est une réforme de gauche.
Oui, parce que les RTT, les 35 heures à l'hôpital ont désorganisé l'hôpital public.
Il y a eu de la torture, il y a eu tout ce que vous voulez, je ne le nie pas. On n'a rien fait de mal.
On considère que le droit au travail, c'est le droit de choisir son travail.
Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
L'heure de le mettre, mercredi à 18h30 sur Radio Campus 106,6.
Ouais, alors on est toujours le 4 février dans la manifestation à Lille. On tombe sur un militant de Sud Solidaire, vous êtes aux finances publiques.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous faites comme métier, monsieur?
Moi, j'aide mes collègues à pouvoir travailler. Je leur fournis les imprimés et tout ce qui leur permet de. Je suis dans les services internes des
logistique,
finances.
Logistique, voilà, matériel, ouais. Et tout ça.
Ouais.
Ouais, c'est les conditions de travail, elles sont comment en ce moment?
Pour mes collègues, c'est infernal parce qu'on subit plein de restructurations, de fermetures de sites, de fusions de services. Et le gros problème, c'est que déjà, on n'est pas forcément d'accord avec ça, mais le problème, c'est que c'est fait dans la souffrance des agents. C'est-à-dire que là, par exemple, les services qui ont été impactés au 1er janvier, les agents n'ont su que le 9 décembre où ils allaient, ce qui fait quand même un peu juste 3-4 semaines avant la mutation.
Ça peut jusqu'à combien de kilomètres, ça?
Ça peut faire 20-30 km, c'est pas forcément énorme, mais ouais, ça change quand même. Plus on a des enfants, en plus maintenant avec le couvre-feu qui fout la merde partout.
Et le Covid, ça a changé les conditions de travail de vos collègues et de vous-même?
Ça a augmenté beaucoup le télétravail, c'était un. Qui était peu utilisé un petit peu.
Mais c'est une bonne chose ça? Ça fait quoi sur les agents, ça, le télétravail?
C'est très bien pour les agents qui ont comme ça, qui ont des routes assez importantes parce que ça leur fait des fois une ou deux heures de trajet en moins par jour. Mais le gros problème, c'est que ça éclate complètement les équipes. Les gens ne se revoient plus. En plus, ils n'ont pas forcément leur chef pour avoir ne serait-ce qu'une signature toute con pour plein de documents. Il faut forcément l'aval du chef de service, et ben là, ils l'ont pas sous la main, ou eux n'ont pas les papiers parce qu'ils sont chez eux.
Vous nous dites que vos collègues préfèrent bosser dans les bureaux qu'à la maison ?
Oh, ça dépend des... Je veux pas parler pour tout le monde, ça dépend forcément des situations personnelles, mais majoritairement, les agents aiment bien pouvoir travailler avec leurs collègues, c'est quand même plus...
Préfère.
Bah, ça... Donc
vous nous dites qu'il y a une détérioration alors, des conditions de travail, plus de ces restructurations qui elles aussi contribuent à une moindre qualité de travail.
Ah bah, tout à fait, parce qu'on nous augmente le nombre de missions en ayant moins d'agents, donc forcément, hélas, les agents ne s'en sortent plus, ils essaient de faire leur travail au mieux, mais le problème c'est que, bah, là, en plus la communication, il y a des fois... dans les accueils, bah les contribuables connaissent les choses, ont eu les informations à la radio, à la télé, avant que les agents eux-mêmes l'aient eu officiellement et commencent à se décliner dans la réalité du travail, quoi. Donc c'est en plus, en ce moment, il n'y a plus que de l'accueil sur rendez-vous, donc forcément c'est beaucoup plus difficile. Surtout pour tout, on a quand même aussi toute une population qui n'a pas forcément de téléphone, qui ne comprend pas l'administration, le langage.
Vous voulez dire que là, en ce moment, c'est plus dur aussi pour les usagers, si on peut dire, des services publics.
Oui,
je ne sais pas si on parle comme ça.
Si, tout à fait. En plus, sous prétexte de fermer on nous ferme des trésoreries et des services d'accueil en nous disant, mais c'est super, on va vous mettre des accueils de proximité. Mais au lieu d'avoir des agents en permanence qui connaissent le boulot, on va avoir des maisons de France Service où il y aura une personne qui va venir une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, des fois sur rendez-vous, et qui ne connaîtra pas forcément tout, puisque ce sera des agents polyvalents ou même peut-être que juste des vacataires. Donc forcément, oui, pour le contribuable, surtout pour les personnes qui ont des difficultés à comprendre un peu le monde dans lequel on vit et qui n'ont pas forcément accès à Internet et compagnie, alors là, c'est devenu l'horreur.
Ah ouais. Et ça risque de se traduire pour eux en décalage, en délai supplémentaire et donc en frais supplémentaires.
Ah c'est toujours le risque, oui, quand...
Vous êtes en grève aujourd'hui, monsieur ?
Oui.
Donc vous avez renoncé à une journée de salaire. Vous gagnez combien par mois ?
2000 euros. On fatigue.
Vous êtes un ancien agent des finances publiques.
Vous n'avez pas
plus jeune.
Okay, j'aspire à la retraite, mais ils veulent pas me la donner.
Mais y a beaucoup de gens qui sont mécontents dans ce pays, de la façon dont c'est géré.
Mais le problème, c'est qu'ils râlent dans leur coin, mais quand ils sont là sur la manifestation, on ne peut pas dire qu'on soit quand même très très nombreux. On pourrait être beaucoup plus nombreuses et nombreux.
On est combien, à votre avis, aujourd'hui ? Là, vous êtes en queue de cortège.
Je ne sais pas, comme je reste avec notre camionnette...
Quelques milliers, peut-être 5000, un truc comme ça, quoi.
Je peux pas dire du tout, j'ai pas remonté le cortège, mais...
Bon, heureusement, on se paye pas la drage comme hier, là.
Voilà,
on n'est pas passé loin. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous appartenez à une organisation syndicale Sud Solidaire.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas ?
Quand on n'est pas complètement égoïste et qu'on se dit qu'il n'y a pas de solution rien que pour soi, qu'il faut travailler tous ensemble, c'est un vieux slogan, tous ensemble, tous ensemble.
Ouais.
Et donc du coup, on cherche une organisation syndicale qui ait l'air combative et qui ait l'air de vouloir faire changer un peu la destruction qui est déjà commencée, hélas, depuis plus de 20 ans maintenant, de nos services publics et de tout ce qui fait, tout ce qui faisait on a envie de dire la République quelque part, ou la démocratie qui part, hélas, en miettes depuis.
Qu'est-ce qu'on dit à des mécontents qui ne s'organisent pas ?
Ça, c'est... Si on avait une clé...
Oui, justement, je la cherche.
On la cherche aussi, hélas. Sinon, je pense qu'on serait plus nombreux dans les...
Ouais, on pourrait gagner comme ça.
Dans les manifestations et dans les... Ça, si... On a les grands médias contre nous, du coup, c'est quand même aussi difficile pour la communication. Alors, on a maintenant des possibilités avec Internet de... pouvoir aller chercher soi-même ces informations, mais ça demande déjà une volonté d'y aller, quoi. Que si on s'installe devant sa télé, on a toutes les malchances d'entendre des conneries et de se faire bourrer le mou à coup de publicité.
Ça peut être quoi la suite de ce mouvement-là d'aujourd'hui qui démarre ou qui redémarre ? Est-ce qu'il faut attendre le 1er mai pour une prochaine mobilisation ?
Ça paraît loin, là. Les grèves sautent moutons, on en a déjà, hélas...
Alors vous souhaitez quoi en termes de lutte et de mobilisation pour maintenant, pour la suite ?
Bah, le rêve, ce serait qu'on réussisse à faire une grève générale, mais ça, c'est un vieux mot d'ordre aussi qui n'est...
Quelque chose qui se reconduit d'un jour à l'autre.
Oui, mais ça, ça se décrète pas. C'est les travailleurs et les travailleuses qui sont dans le mouvement, qui un jour disent « Allez, c'est bon, on en a marre et on va essayer de faire changer les choses. » Mais il faut que les gens le sachent qu'ils peuvent le faire. Ils ont l'impression qu'ils n'y croient plus, alors que c'est bête. Nos ancêtres, ils avaient encore... La situation était bien pire que nous. Ils se sont battus pour améliorer leurs conditions de travail, pour acquérir des acquis sociaux. Et là, on nous massacre tout et les gens laissent... ils râlent, mais ils laissent faire. Alors que, voilà, il faut l'exprimer qu'on n'est pas d'accord. Mais profiter quand on est tous ensemble, parce que tout seul dans son coin, c'est bien de râler, mais c'est pas... Ça fait pas avancer les choses.
Ça fait pas avancer les choses.
Bah, râler dans son coin, mais oui. Râler tous ensemble et le montrer que... Voilà, manifester, parce que c'est le terme, le nom de la manifestation, c'est exprimer en public et devant nos dirigeants qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils nous font subir et qu'on veut que ça change.
Merci.
Bah, c'est un plaisir.
Bonne fin de manifestation.
Merci, pareillement. Bon courage à la radio, ça c'est une chouette radio qui existe depuis déjà un certain
temps. Ah merci, vous pourrez peut-être vous réentendre là ce lundi entre 19h et 20h, ça s'appelle On passe au rouge. C'est sur Radio Campus en 6,6.
D'accord, saucisse pois chiche.
Exactement. Ah, c'est un auditeur de l'heure de le mettre. Merci.
De rien.
Vous êtes de Sudrail, vous travaillez à la SNCF?
Ouais, aux ateliers d'LM.
Pourquoi vous bossez aux ateliers d'LM? Pourquoi est-ce que vous êtes mobilisé aujourd'hui, là? Vous êtes en grève aujourd'hui?
Ouais, on est en grève et puis ben, on est en soutien par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au licenciement.
Par rapport à la suppression d'emploi, au licenciement, le gouvernement profite du Covid à mort. Nous, il faut savoir que maintenant, on est une société anonyme, donc on est en train de tout perdre à la SNCF, hein, depuis le pacte ferroviaire.
La privatisation est bien en marche. Là.
La privatisation est en marche. À 9% de port. Le but de la SNCF, de propre entreprise, c'est de détruire tout ça, qu'il n'y ait plus de statut. Hein, c'est le cas actuellement. Depuis le 1er janvier, ce sont des gens qui ne sont plus à statut, pour que ça devienne des sociétés anonymes, avec l'ouverture à la concurrence. Donc forcément, on ne sera plus une entreprise pour les usagers.
On sort des usagers qui deviennent des clients chez vous, là, c'est ça?
On n'est plus des usagers, ça va être des clients.
Comme la
SNCF, maintenant, elle est divisée en cinq sociétés anonymes. Uh-huh. Donc, nous, on est encore des gens à statut, actuellement. On défend, qu'est-ce qu'on fait à Sudrail? On défend forcément les droits de tous les ouvriers, parce que chez nous, on est des gens aussi qui sont contractuels. Uh-huh. C'est-à-dire, on appelle ça les PS25, c'est-à-dire la sécurité sociale. Leur but, c'est de détruire tout ce qui était par rapport au statut du cheminot, on appelait ça le H077.
Et oui, il a été perdu maintenant, c'est-à-dire que les nouveaux embauchés ont perdu leur statut.
Les nouveaux embauchés ont perdu leur statut. Donc nous, moins on sera nombreux en tant que statutaires, moins on aura de force, même au niveau syndical. Déjà, il y a eu le CSE, hein, c'est général, le CSE, ça détruit notre force syndicale. Puis là, ils sont en train de détruire nos emplois, mais complètement. Ils sont en train de tout diviser, la SNCF. En train de tout foutre en l'air, quoi, pour parler vulgairement. Donc oui, on est mobilisé pour nous, en tant que cheminots, mais aussi par rapport au monde du travail, de tout ce qui se passe dans le monde du travail, de tous ces licenciements, de tous ces pertes d'emploi, quoi. Ça devient quand même grave, ça devient grave, quoi.
On se souvient de votre très longue bataille, c'était il y a 2 ans,
ouais,
hein, je crois,
deux ans,
vous en avez eu nombreuses.
Oui, l'année passée aussi, on s'est battu, encore et toujours.
Ouais,
on s'est battu.
Mais vous avez perdu.
On a perdu.
Ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a pas fonctionné.
Et pourquoi je me souviens qu'à l'époque, la question de la convergence des luttes était quand même en question. Certains de vos camarades disaient « Non, c'est pas une question de convergence. Maintenant, il faut d'abord gagner sectoriellement et ensuite, on peut partir sur quelque chose de convergent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?»
On a essayé, on a même un petit peu peut-être mélangé. Avec les gilets jaunes et tout ça, on était sur les mêmes idées de base.
Ouais.
La lutte contre ce gouvernement anti... On est anticapitaliste, quoi, ça devient une mondialisation terrible.
Il
faut savoir que la SNCF, l'entreprise qui a 80 ans, il faut savoir qu'on est 5 sociétés anonymes là, actuellement. 5 sociétés anonymes, on est en train d'être privatisés. Donc nous, on défend encore nos droits, notre statut qu'on a, mais en même temps, on défend les droits de tous les ouvriers. Donc chez nous, on a des gens qui arrivent, qui sont contractuels, la sécurité sociale.
Ouais.
Ces gens-là, on veut qu'ils aient le même statut que nous. Parce que à la fin, quand on sera de moins en moins de cheminots, on est amené à disparaître. C'est leur but que nous on disparaisse, pour qu'après ce sont des sociétés capitalisées. La concurrence, c'est du capital. Quand on voit maintenant la concurrence, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que toutes les entreprises qui veulent racheter des voies, qui veulent racheter des guerres, non, ça coûte trop cher. Il y a trop d'argent de perdu. Nous, on est en train d'être complètement privatisés. Et nous, on défend encore notre statut, toujours en défendant aussi le droit des ouvriers. Parce que chez nous, maintenant, tous les jeunes qui arrivent chez nous, forcément, ce sont des jeunes contractuels, quoi, qui sont la sécurité sociale.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on a des salariés qui font le même boulot et qui ont des statuts radicalement différents.
Pareil,
crée une injustice sociale importante, là. Hein.
Complètement. Ça veut dire que nous, pour l'instant, on ne touche pas trop s'il y a un problème. Mais eux qu'ils arrivent, ces gens-là, on peut les foutre dehors facilement du jour au lendemain.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner aujourd'hui ?
Nous, on aimerait qu'ils enlèvent les 5 sociétés anonymes, qu'on redevienne une entreprise nationalisée, comme on était au départ, et qu'on redonne le statut à tous les ouvriers, que ce soit contractuels ou cheminots. Le même statut pour tous les ouvriers.
Ok, mais pour obtenir ça, quelle forme de mobilisation ? Est-ce qu'il faut reconduire ce qui se passe aujourd'hui, dès demain, dès la semaine prochaine, ou est-ce qu'il faut attendre le 1er mai pour se montrer ?
Ça va être des ficelles. Comme vous dites, ils ont un petit peu gagné. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que ça dure le plus longtemps possible pour pouvoir gagner quelque part, pour garder notre statut surtout. C'est un peu foutu, c'est con ce que je vais dire, mais bon, on a un petit peu perdu. On a un petit peu perdu, le gouvernement Macron tout fait pour nous foutre en l'air. Le CSE, c'est pas anodin, mais on est obligé de continuer à lutter. Quand même, parce que nous les anciens cheminots, j'ai 55 ans cette année, je vais partir en retraite, je fais 5 ans de rap, ça c'est pas grave. Mais nous on avait quand même une famille. On travaille pour les usagers. Les trains n'iront pas mieux, il faut pas croire, ils sont en train de foutre en l'air toutes les guerres. Ils sont en train de tout foutre en l'air. Demain, les tickets de train, ils voleront deux fois plus cher, comme ça s'est passé en Angleterre. Nous, on veut éviter tout ça, puis surtout la défense de l'ouvrier, c'est vachement important. C'est-à-dire, demain, toi, tu arrives contractuel, puis on dira, tiens, on fait un plan de licenciement, on te foutra dehors, point barre. Nous, on veut avoir un statut pour tous les ouvriers. Après, on est ici aussi pour la défense de tous les ouvriers. Tous ces licenciements à outrance, ils profitent du Covid, justement, pour... on connaît bien. C'est bien que la mondialisation, c'est le fric à outrance. On est là pour ça aussi. Pour nous et pour la défense de l'ouvrier.
À pied, à cheval ou en voiture, en route pour de nouvelles aventures. J'ai pris un train en partance, un train de voyageurs qui traverse la France pour aller voir ailleurs. J'ai pris un train vers 22h pour m'en aller au petit bonheur. À pied, à cheval ou en voiture, vers de nouvelles aventures. Aïe, aïe, la vie dure. Dur, dur, la vie du rail, à pied, à cheval ou en voiture, en route pour de nouvelles aventures. Chacun bouquine son magazine, un pédicure mat mes chaussures. Le bruit des rails horizontal berce la nuit à l'infini. Un homme d'affaires somnole comme une casserole, et son voisin rousse pète derrière ses lunettes. Deux militaires sirotent leur bière, v'là le contrôleur sous sa visière. Les lumières d'une ville défilent comme des lucioles au ras du sol. Une dame sort un caniche de sa valise, un mangeur de sandwich, j'en mets plein sa chemise. Aïe, 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 la vie dure. À pied, à cheval ou en voiture. On vient de passer sous une montagne, une étudiante épluche une banane. La veilleuse dans ma ligne de mire, j'arrive pas à dormir. Le long de ce chemin de fer, entre souvenir et devenir, on ne revient pas en arrière, même quand on s'aime, il faut partir. Aïe, aïe, la vie dure, 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 la vie du rail, à pied, à cheval ou en voiture, en route pour de nouvelles aventures. pris un train sans correspondance, un train de voyage qui traverse la France pour aller voir ailleurs. Roule, roule la diligence comme un bandit sur la paille. J'ai pris mon mal en patience. Dur, dur, la vie du rail. À pied, à cheval ou en voiture, en route pour de nouvelles aventures. À pied, à cheval ou en voiture, en route pour de nouvelles toujours plus belles, éventuelles ou virtuelles aventures.
Radio, ça serait une radio où il y aurait de la musique, ben, et quoi, du jazz, de la chanson, et puis des trucs qui bougent, quoi, du rock, du rap, et aussi du reggae, un peu de classique, mais je voudrais aussi des informations.
On est bien là, dans une logique impérialiste.
Des opinions.
Moi, j'ai donné mon point de vue.
Des interviews.
Moi, je sais pas, j'habite à pourquoi.
La politique, quoi.
Nous qui sommes le contre-pouvoir.
Ça déconne, hein.
Elle était violente, cette crise.
Ça, surtout, bah, sans publicité. Mais bon, bah, des radios comme ça, ça existe pas. Y'en a pas.
Mais t'es con, quoi.
Ce foutu mélange, c'est Radio Campus, qu'on écoute sur 106,6. Sur le fil du micro.
Voilà, je suis avec un militant de la CGT qu'on avait déjà rencontré dans les manifs depuis un petit moment.
Ah oui, dans les manifs de Gilets jaunes qui sont malheureusement interrompus.
Rappelle-moi où tu travailles.
Je travaille chez une pharmacie, un laboratoire pharmaceutique restructuré qui vient d'être acheté par un nouvel actionnaire et qui est en pleine reprise économique.
Et évidemment, tu es dans le syndicat.
Ah oui, oui, le syndicat CGT. Je suis membre du CSE et délégué syndical.
Alors là, on est... Il est quoi? Il est 14h maintenant là.
Ouais, un peu plus.
Porte de Paris à Lille.
Ouais, bah là, moi, je suis arrivé un peu en avance parce que la manif de Valenciennes n'a pas été un franc succès.
Toi, t'as été à la manif de Valenciennes?
Ouais, j'étais à 10h. Ouais. Après, ça, on est parti un peu avant 11h et ça s'est terminé vers 11h35. Après, je suis allé manger dans ma tôle. Et puis, je suis arrivé à moi à 14h, à 13h45. Et quand je suis arrivé ce matin à mon travail à 7h, j'ai préparé mon boulot de demain parce que demain il y a aussi une action par rapport à un camarade de chez Honnête à Valenciennes qui a des soucis. Donc on va aller faire une action pour soutenir par rapport à le licenciement qui est envisagé à son égard. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai croisé. Quand je suis reparti de mon laboratoire, j'ai croisé mon patron qui arrivait. Et je lui ai chanté au moment de partir, après avoir pointé : patron, gouvernement, vous êtes disqualifié. Pour vivre dignement, on vient manifester. Il faut faire autrement, ça ne peut plus durer. En luttant tous ensemble, c'est sûr qu'on va gagner. La 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 la.
Et comment voilà. Il a réagi?
Ah ben, il n'a pas réagi parce qu'il est habitué avec moi. J'ai déjà envoyé une manif des Gilets jaunes pour lui faire prendre conscience de l'utilité des syndicats parce qu'il m'avait déclaré que j'avais trop d'heures. J'ai 38 heures. Avant, j'en avais 43. Parce que j'étais aussi au CHSCT qui a disparu dans mon entreprise.
Oui,
bien sûr. Mais pour les élus du CSE... ce qui a changé par rapport au CE, c'est que maintenant, on peut, dans le code du travail, prévoit que quand on n'a pas pu prendre ses heures, par exemple quand on était confiné il y a un an, on peut les utiliser cumulativement pendant 12 mois. Ça, j'ai envoyé à ma responsable des ressources humaines. Comme elle ne me répondait pas, je l'ai envoyé à l'inspection du travail et j'ai pris mes heures. Donc, il faut prévenir 8 jours avant. et on peut prendre qu'au maximum une fois et demie son crédit d'heure. Moi j'ai un 21h, ce mois-ci je vais prendre donc 31h et 30 minutes.
Pourquoi t'es venu aujourd'hui? Pourquoi t'as renoncé à une journée de salaire?
Ah non, 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 je suis désolé, comme j'ai plein d'heures de délégation, je suis venu sur mon crédit d'heure de délégué syndical, je suis honnête.
Ah bon, mais c'est ah bah, pas très juste de faire ça par rapport aux autres salariés qui n'ont pas de délégation, non?
Oui, c'est pas très juste, mais je suis le seul salarié de mon entreprise. J'admets, mais comme j'ai un crédit d'heure, autant l'utiliser, rendre à la CGT ce que la CGT me donne.
Bon, ça, je vais pas le mettre.
Pourquoi je vais aller me mettre en grève et perdre du salaire alors que j'ai 18 heures et que là, c'est la première... C'est la première manifestation à laquelle je pouvais participer. Il y en a eu une avec à Valenciennes concernant les étudiants et j'ai pas pu y participer.
L'éducation nationale, mardi dernier.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et alors pourquoi est-ce que tu t'es mobilisé aujourd'hui?
Bah parce que j'ai besoin de retrouver le. Moi je suis un militant de terrain et dans la rue. Et j'aime bien retrouver les autres délégués, échanger, leur donner des informations.
Ah, ça manquait, ça, hein.
Ah oui, oui, oui. L'histoire de cumuler les heures sur 12 mois et augmenter le crédit d'heure, ça, ma DRH, pour l'instant, elle n'a pas communiqué là-dessus, mais qui ne dit rien qu'on sent.
C'est quoi le mot d'ordre aujourd'hui de cette manif?
J'ai retenu surtout le mot d'ordre de Valenciennes. C'est les vieux dans la les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère et les travailleurs en état précaire.
Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces mécontents qui sont nombreux en France mais qui ne rejoignent pas les organisations? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Il faudrait organiser une convergence des luttes. On crève parce qu'on est désunis. Victor Hugo disait: Il est une force que les bourgeois n'auront jamais, c'est la force du nombre. C'est ça qu'il faut, la force du nombre.
Uh-huh. Et alors la prochaine étape là dans la lutte du moment, c'est quoi? C'est le 1er mai ou est-ce qu'il y aura des trucs avant?
Moi je suis pas dans l'organisation, moi on m'appelle, je viens.
Ah mais qu'est-ce que vous souhaitez vous?
Eh ben moi ce que je souhaite c'est qu'on sorte de cette putain de pandémie et que tout le monde soit vacciné le plus vite possible. Voilà, mais j'ai essayé d'organiser dans ma tôle une vaccination en liaison avec la médecine du travail et j'ai pas l'impression que les gens ils sont motivés pour se faire vacciner. Ils ont peur du vaccin. Alors ben, moi c'est pas grave, je me ferai vacciner dès que ce sera accessible en pharmacie, j'irai le faire dans ma pharmacie pour pas me casser le cul à devoir faire des rendez-vous. Je me suis déjà fait un test PCR. Mardi, avant-hier, et ça m'a fait juste rentrer avant le couvre-feu. Ça m'a bien pris la tête de perdre du temps pour me garer à Lille. Après ma journée de boulot à Valenciennes.
On est place Simon Volant, il est 14h15 en ce jour de lutte. Nous sommes le jeudi 4 février 2021. Il y a plusieurs centaines de personnes réunies porte de Paris à Lille pour le départ de cette manifestation. On va continuer à suivre avec le micro de Radio Campus. Oh tiens, il y a Isabelle Bosseman qui est là. Isabelle Bosseman du CHU. Bonjour Isabelle. Je vous dis deux mots quand même. Dis-nous pourquoi quand même t'es là aujourd'hui. C'est quoi le mot d'ordre?
Aujourd'hui, c'est l'emploi, les services publics et contre la précarité. Je pense que tout ça, c'est lié. À partir du moment où il y a de l'emploi, il y a des services publics, puisqu'on sait comment sont financés les services publics. Sans emploi, c'est la mort des services publics. Donc on n'a pas d'autre choix que d'être solidaire, public, privé. Voilà, on ne peut pas se... Voilà.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui sont mécontents de la façon dont ce pays est gouverné, mais qui ne rejoignent pas les organisations aujourd'hui?
Que nous, on se pose la question, nous les militants, en colère on l'est, conscient on l'est, dans la rue on l'est. Moi je constate en tout cas à l'hôpital, et ça fait déjà, à mon avis, près de 2 ans, que les collègues, quand on discute, il n'y a plus personne qui est d'accord avec la politique qui est menée et il n'y a plus personne qui n'est dupe du fait qu'il y a du pognon dans ce pays. Tu vois, il y a 3-4 ans, quand on parlait avec les salariés des moyens à l'hosto, il y avait le processus et l'idée Fillon-Sarkozy de « il faut faire un effort, il faut serrer la ceinture, les caisses sont vides ». Ça, c'est terminé déjà depuis, moi je dirais, 2-3 ans dans la tête des salariés de l'hôpital. Tout le monde a bien conscience et la CGT, elle a fait un super boulot là-dessus. Voilà, ça a été de la répétition, de la démonstration permanente, quotidienne, notamment au travers du CICE, etc. Et ce travail qu'on avait fait à l'époque, on en a récolté les fruits où, dans la conscience des gens, ça y est, ce stade-là est passé. Du pognon, il y en a, ce sont des choix politiques. Donc aujourd'hui, ils sont conscients, on a avancé, ils sont conscients que c'est une histoire de choix politiques. Maintenant, le niveau de conscience qu'on doit gagner, c'est comment on peut peser et comment on peut peser sur les choix politiques et comment on peut les renverser.
Il faut des victoires alors pour créer de l'adhésion.
Et pour avoir des victoires, il va falloir un rapport de force. Et pour avoir un rapport de force, on doit continuer ce travail quotidien de fourmi, de répétition, de oui, c'est nous qu'on compte et oui, c'est nous qu'on peut changer les choses. Et on finira bien par être très nombreux. Et c'est cette bascule-là qui est longue à venir, qui est pénible, mais on est absolument pas désespéré. On sait que c'est long, c'est normal.
Merci Isabelle Bosman. Je suis tombé sur un étudiant. Vous êtes dans une organisation, vous ?
Ouais, je suis à la CGT. Je suis au CELA plus précisément.
C'est quoi le CELA CGT ?
C'est le syndicat étudiant lycéen apprenti, qui est quelque chose d'assez unique en France, en tout cas du point de vue de la lutte pour la reconnaissance du syndicalisme étudiant.
Et vous étudiez en quoi ?
En musicologie, à Lille 3.
Aïe aïe, mais vous allez être au chômage après, non ? C'est pas terrible hein, pour les intermittents en ce moment et pour la musique, la culture, tout ça.
Non, effectivement. Mais bon, je savais un peu dans quoi je m'engageais aussi. Hein. Quand tu vas en musicologie, c'est pas pour bosser dans le bâtiment après. Hein.
Les conditions de travail pour vous, elles ont sacrément changé avec le Covid, j'imagine.
Bah oui, déjà, moi j'ai plus cours en présentiel, je suis qu'à distanciel. Bon, ce qui est très dur à... En tout cas pour des profils comme moi, ce qui est très dur à suivre. Et puis, pour tout ce qui est évaluation, pour tout ce qui est examen, ça ajoute une pression, en fait, une pression de malade, parce que t'as cours en distanciel, et encore, je t'avoue que c'est pas facile à suivre, moi je suis pas tout. J'ai pris un emploi en plus entre deux, vu que je vais plus à la fac, donc j'ai pas forcément le temps non plus de faire les cours à fond. Et pour tout ce qui est examen, c'est la galère, parce qu'à distance, parce que très peu d'informations, en plus la fac de Lille, ils sont désorganisés comme pas possible. Donc ouais, des gros changements et pas positifs. Hein.
Il faudrait faire quoi là pour arranger le truc des étudiants en ce moment ?
Bah écoute, moi j'ai pas personnellement de solution miracle. Maintenant je pense que dans l'idée, faudrait adopter une gestion totalement différente de la chose. Et plutôt que des beaux discours sur les étudiants qui doivent aller à l'école et que sinon ils vont pas bien, les pauvres, on va leur payer le psy. Faites en sorte qu'on ait plus besoin de ça. Faites en sorte que les étudiants n'aient plus à se sacrifier à un travail pour avoir le droit d'étudier, n'aient plus à vivre dans des conditions dans les résidences de merde là, de l'île 1 par exemple. Bref, c'est tout un... Faut prendre le problème à la racine si tu veux. Faut plus que les étudiants se retrouvent dans des situations de précarité comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Et ça passe pas par nous payer le psy.
Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans une organisation comme l'UNEF, qui est bien connue quand même ?
Bah parce que justement, moi je crois en... Je suis de confession, si on peut dire, assez matérialiste. J'ai toujours cette conscience que un des outils primordiaux pour la lutte, les luttes quelles qu'elles soient d'ailleurs, la lutte générale si tu veux, c'est le syndicat. Et le syndicat... fort par excellence historiquement, c'est la CGT. Plutôt que créer des dissensions avec l'UNEF, avec la FSE, avec des tas d'autres organisations qui en fait ont pour différence principale qu'ils ne luttent pas comme nous au CELA pour la reconnaissance pleine et entière du syndicalisme étudiant. C'est en ça que le CELA est pour moi le meilleur compromis, le meilleur outil.
Alors aujourd'hui là, on est le 4 février, la semaine dernière mardi, je sais pas si vous étiez en grève aussi, mais il y avait une mobilisation, on trouvait des...
Non, vous y étiez pas. Moi je n'y étais pas, non.
Mais il y avait des étudiants là, il y avait notamment là, un cortège de la JC qui rassemblait pas mal d'étudiants. Ouais. Pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant, ça va pas suffire une journée comme celle d'aujourd'hui. Comment vous voyez les choses ? On va pas attendre le 1er mai quand même.
Non bah écoute, moi je suis un peu, personnellement encore une fois... Je suis un peu dubitatif quant à ce qui se passe en ce moment parce que je pense que le Covid et tout ce que ça implique, tout ce qui tourne autour, ça modifie beaucoup aussi, autant que ça peut modifier le scolaire ou le travail, ouais. Ça modifie pas mal aussi le militantisme.
Et la lutte alors, et la mobilisation.
Et la lutte, hein. Et la mobilisation, ouais. Concrète. Donc là, actuellement, je ne saurais pas trop quoi te répondre pour te dire ce qu'il faudrait. Tu vois, ouais. je n'ai pas la solution. En tout cas, un pas, ce serait de continuer à se mobiliser et qu'on essaie d'être de plus en plus nombreux et qu'on continue d'unifier autour de nous et de mobiliser, tout simplement. Oui.
Il y a énormément de gens qui sont mécontents là aujourd'hui. Mais pourtant, une grande partie de ces mécontents ne rejoignent pas les organisations et sont comme un peu défiants par rapport aux organisations. Ils ont, je ne sais pas, peut-être un peu peur de l'autorité qui s'y retrouve, de fait de se retrouver sous la coupe d'un nouveau pouvoir, ouais. Alors qu'il y a une soif de liberté. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
Bah que pour avoir la liberté, il faut l'arracher. Et que pour l'arracher, il faut être organisé. Et que pour s'organiser, il faut une organisation.
Ouais, mais si on va à la CGT, on va se retrouver tout de suite avec 2-3 chefs supplémentaires, quoi. C'est ça, encore de la hiérarchie.
Ouais, ça, c'est un problème qui se pose même au sein de la CGT. Hein. Mais il faut en passer par là. Et la CGT, c'est pour moi un outil indispensable qu'il faut remanier de l'intérieur. Je veux dire, si ça va pas, c'est que c'est de dedans qu'il faut que le changement provienne.
Ouais. Vous voulez dire qu'il faut que les mécontents s'emparent de la CGT ?
Exactement.
Tout à fait.
Yeah. Boom. Han madabal kick 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 carry. Boom. Ha ha. Some of the guns are now. Boom. No one abandon jamais. On est déterminé, et ça tu le sais. No one abandon jamais. On remis à la victoire. No on abandonne jamais. Plus que déterminé et ça tu le sais. No on abandonne jamais. Y'a le madabal qui carry James combiné toutes les meilleures.
Depuis mon enfance je joue en défense. Mais je marque des buts, me dépense. Défense les plans de la première France. Plus rien ne me fait vaciller. Mental d'acier. J'ai même dû faire face au canon scié. Yeah. Je suis venu en France pour banquer, croquer dans le gâteau sans être invité au banquet. M'introduire sans toquer, les choquer. Ce que j'aime voir, c'est les fils d'immigrés devenir plus riches que leurs banquiers. C'est pas le rap de l'UMP, c'est le rap éveillé des banlieues à émanciper. C'est pour les frères qui jouent en équipe solidaire, veulent marquer l'histoire comme mafia qu'un fri légendaire. Mais pour ça, faut insister, persister, résister. Violenter ta chance, on te désiste. T'imposer, t'opposer, s'exposer au danger, puis l'exploser. Promis à la victoire. Faut oser.
No, on abandonne jamais. On est déterminé et ça tu le sais. No, on abandonne jamais. On remis à la victoire, pas à l'échec. No, on abandonne jamais. Plus que déterminé et ça tu le sais. No, on abandonne jamais. Y'a le madabal qui carry comme combiné toutes les meilleures l'air.
Yeah, Kerry, J et Admiral T, ok. Yeah. Tu peux allumer ton briquet. Light again, si t'as perdu, faut fight again. Qu'ils t'entendent dire I'm back again. J'aime le V de la victoire, pas le V de la GAV, mais le V du point levé pour œuvrer. J'aime le V de la bravoure, et dès que je commence un truc vrai, il me faut le V du travail achevé. Il ne s'agit pas de ne pas tomber, mais de se relever. Ce qu'on fait, on ne le fait pas que pour flamber, mais pour s'élever. C'est le plan A, c'est le plan B. À trop penser au plan B, beaucoup se sont fait plomber. Yeah. On donne la force aux frères qui sommeillent. Tu dois encaisser l'hiver si tu veux voir venir le soleil. On veut vivre nos rêves et nos vies. Et notre histoire en vie est promis à la victoire.
No, on abandonne jamais. On est déterminé et ça tu le sais. No, on abandonne jamais. On promis à la victoire, yeah. Pas à l'échec. No, on abandonne jamais. Plus que déterminé et ça tu le sais. No, on abandonne jamais. Y'a le madabal qui carry comme combiné toutes les meilleures l'air.
No, on abandonne jamais. On est déterminé et ça tu le sais. No, on abandonne jamais. Promis à la victoire.
On ne lâche pas, se relâche pas, ne crache pas, ne se cache pas, ne mâche pas nos mots. Et cela même si on ne nous ménage pas. Lâche pas de détermination, de volonté de pas. Si on est traqueur, yes, mais ça ne marche pas. On ne lâche pas, se relâche pas, ne crache pas, ne se cache pas, ne mâche pas nos mots. Et cela même si on ne nous ménage pas. Lâche pas de détermination, de volonté de pas. Si on est traqueur, yes, mais ça ne marche pas. No, on abandonne jamais. On est déterminé et ça tu le sais. No, on abandonne jamais.
on remet à la victoire. Pas à l'échec. Nous on n'abandonne jamais. Plus que déterminé et ça tu le sais. Nous on n'abandonne jamais. Yann Madabal, Vic et Rick, combiné toutes les meilleures en l'air. Nous on n'abandonne jamais. On est déterminé et ça tu le sais. Nous on n'abandonne jamais. On remet à la victoire. Pas à l'échec. Nous on n'abandonne jamais. Plus que déterminé et ça tu le sais. Nous on n'abandonne jamais. Yann Madabal, Vic et Rick, combiné toutes les meilleures en l'air.